RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre mission quotidienne de la voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi 10 mars 2018. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Ces auditeurs et auditrices, ce soir, le programme commencera par le journaux, suivi les nouvelles de l'Indonésie, aujourd'hui dans l'histoire indonésiaque. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission de la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésien. Écoutons maintenant les journaux aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs auditrices du monde entier, voici le bulletin d'information aujourd'hui, intitulé « La conférence trilatérale des ulémas est souhaitée d'atteindre un accord pour l'Afghanistan ». Agence économique créative s'efforce d'augmenter le marché des jeux et des applications numériques indonésiennes. Voici le bulletin complet. L'Indonésie montre à nouveau son engagement à réaliser la paix dans le monde. L'un d'entre eux sera l'hôte de la conférence trilatérale sur les ulémas, qui sera suivie par l'Indonésie, l'Afghanistan et le Pakistan dans un proche avenir. La conférence des ulémas de trois pays vise à mener le processus à paix de paix en Afghanistan. Mardi 6 mars, à Jakarta, le vice-président Yusuf Kala, le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi et le conseil indonésien des ulémas ont tenu une réunion à huis clos sur le plan de la conférence trilatérale des ulémas. Rencontré avec la réunion, le vice-président Yusuf Kala a déclaré que le rôle des ulémas est très important pour soutenir la réalisation de la paix en Afghanistan. La réunion en Indonésie deviendra plus tard un parapluie juridique avant la convocation d'une réunion qui part d'un pays plus technique. Nous espérons que la réunion produise une convention collective comment réconcilier l'Afghanistan. C'est très important car en Afghanistan et aussi en Indonésie, la voix des érudits est très importante. Yusuf Kala a ajouté, la mise en œuvre de la conférence trilatérale des ulémas est une implémentation des résultats de la réunion Kabul Peace Process Conference à la fin de février dernier, dont l'Afghanistan a souhaité que l'Indonésie participe dans les efforts d'atteindre la paix. L'Agence de l'économie créative s'efforce à continuer à stimuler le marché des jeux et les applications numériques produites par les enfants de la nation qui continuent de croître et d'améliorer sa qualité. L'effort est basé sur le fait que l'Indonésie est l'un des pays avec un énorme potentiel de marché des jeux et des applications numériques. Mais le grand potentiel n'est toujours pas maximisé. Comme affirmé le directeur de l'infrastructure de l'Agence de l'économie créative, Mohamed Nel El Himam, mardi 6 mars aux équipes de médias, la part de marché des jeux et des applications digitales des développeurs locaux dans le pays reste très faible par rapport aux jeux et l'application digitaux réalisés à l'étranger.
Perkembangannya mudah. Kalau kami rasa sih positif ya, makin baik, makin bagus.
Le développement positif devient le mieux parce que le marché des jeux en Indonésie est grand, assez grand, mais le marché de l'Indonésie de développeurs locaux de jeux est encore très petit. Même hier étant abaissé. Ou bien, nous espérons avec l'assistance de l'agence de l'économie créative, avec la coopération avec AGI, y compris dans des choses comme celle-ci, nous pouvons monter la part de marché. On indique que le marché de Nuzu ou Nuzu.com l'année dernière était 800 millions de dollars américains en Indonésie. Mohamed Nelalim Himam a ajouté jusqu'à présent, l'agence de l'économie créative s'efforce d'augmenter la compétitivité des jeux et des applications digitales offrant des enfants de la nation. Ces efforts sont réalisés dans un nombre de programmes, entre autres Becraft Developer Day, Becraft Game Prime, et envoyé une délégation de développeurs de jeux et d'applications indonésiennes à Game Connection 2018 à San Francisco, aux États-Unis de 19 au 21 mars prochain. La coopération commerciale entre l'Indonésie et le Pakistan continuera de croître et bénéficiera les deux pays. Les deux pays continuent à former une commission conjointe pour intensifier les coopérations qui renforcent Islamabad et Jakarta. Cela a été révélé par l'ambassade du Pakistan en Indonésie, Mohamed Akil Nadim, à la voix de l'Indonésie de RRI à l'ambassade du Pakistan à Jakarta jeudi soir. Nous espérons également que cette année, une commission conjointe entre le Pakistan et l'Indonésie deviendra une évaluation. La ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie pourrait se rendre au Pakistan pour inaugurer une commission. Nous verrions l'engagement bilatéral plus fort entre le Pakistan et l'Indonésie et il deviendra partenaire commercial. Nous développons la coopération économique, nous développons le commerce entre les deux pays. Mohamed Akil Nadim a expliqué que plus tard, en 2019, le Premier ministre du Pakistan se rendrait en Indonésie pour resserrer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, tels que la politique, l'économie, la culture et le commerce. Le gouvernement indonésien souhaite que les pays partenaires commerciaux, en particulier les États-Unis, mènent des échanges libres et équitables. Cette déclaration est liée à la décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits d'importation élevés sur les produits en acier et en aluminium. Le ministre du Commerce, Enggar Tiasto Lukita, a déclaré vendredi que la décision de Trump n'avait pas d'impact direct sur l'Indonésie, parce que les exportations indonésiennes d'acier et d'aluminium vers les États-Unis sont faibles. Mais l'Indonésie demande à tous les pays de mener un commerce libre et équitable. Selon Enggar Tiasto, la guerre commerciale ne dérangera qu'elle ne laissera que le président Donald Trump a déclaré qu'il imposerait un droit de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur les produits en aluminium. La décision a été prise pour protéger les produits domestiques aux États-Unis. La décision de Trump a été répondue mauvais par le principal conseil économique de Trump depuis le début de l'administration. Gary Cohn a démissionné de son poste après que Trump a décidé d'imposer des tarifs sur les importations d'acier et d'aluminium. Le dernier, la Direction générale de l'aviation civile du ministère des Transports a annoncé le présent de l'aéroport de Kertajaya Majalengka, Jaffa West. Le nouvel aéroport en Indonésie sera en mesure d'atterrir des avions du monde entier. Le directeur général de l'aviation civile au ministère des Transports, Agus Santoso, a déclaré vendredi à Jakarta que sur la base du projet initial, l'aéroport de Kertajati servirait comme lieu d'embarquement pour le pèlerinage de Jaffa West en juillet 2018. Le départ des pèlerins du Hajj de Jaffa West est toujours entièrement pris en charge par l'aéroport international de Soekarno Hatta à Cengkareng, Banten. Selon Agus Santoso, l'état de préparation du service aérien atteint 100%. y compris la piste, l'atterrissage du parking de l'avion, la tour de surveillance jusqu'à la gare Bharata. L'inauguration initiale de l'aéroport de Cartagena sera faite le 1er mai et l'inauguration principale en juin. C'est Solidarité, c'était le journal aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui présente de diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Mataram, Nusa Tenggara Ouest. Des représentants de 25 pays sont assurés d'assister au troisième exercice naval multilatéral Komodo MNEK 2018 en province Nusa Tenggara Ouest. L'assistant des opérations du chef d'état-major de la marine, le vice-amiral Ari Atmaja, représentant le chef d'état-major de la marine, l'amiral Ade Supandi, a déclaré que ces pays comprennent le Brunei Darussalam, les Émirats Arabes Unis, la Chine, le Brésil, la Russie et l'Australie. MNEK 2018 est un exercice conjoint impliquant de nombreux pays. L'un de ses objectifs est de renforcer la confiance navale des pays du monde, en particulier ceux liés aux questions de sécurité maritime. L'activité du MNEK 2018 est prévue du 4 au 9 mai 2018. Cette activité a pour thème la coopération pour répondre aux catastrophes et aux problèmes humanitaires. L'activité comprend la signature d'inscription, le développement d'infrastructures ou le programme d'action civique en ingénierie, la dévotion médicale ou le programme d'action civique médicale. Ensuite, l'info de Sleman, Yogyakarta. Le gouvernement du district Sleman a tenu régulièrement chaque année l'Olympique des livres jaunes en collaboration avec le Forum d'amitié des écoles coraniques. Les livres jaunes sont les livres de référence de l'étude islamique en arabe composés par les oulémas et les intellectuels musulmans qui comprennent du Coran et l'exégèse du Coran, l'hadith et la science du hadith, la jurisprudence, la théologie, la science louga, l'histoire de l'islam, le soufisme, les congrégations et la morale. Cette année, l'Olympique des livres jaunes était commencé le 4 mars à l'Université islamique Sunan Pandanaran, Sardono Harjo, Ngaglik. Le responsable des relations publiques et le protocole du secrétariat de la région Sleman, Sri Winarti, le mardi a dit qu'il y avait 155 étudiants qui ont participé aux Jeux olympiques des livres jaunes. Ils viennent de 20 écoles coraniques à la région Sleman. Cette activité a eu lieu pour une journée impliquant 14 jurys. Le gouvernement de Sleman attribue délibérément chaque année le budget de l'activité olympique des livres jaunes, un signe de gratitude du gouvernement local aux écoles coraniques. Les Jeux olympiques ont reçu l'appréciation du directeur général de l'éducation d'Inia et des écoles coraniques du ministère des Affaires religieuses, Ainur Rofik. Sleman est le premier gouvernement local en Indonésie à accueillir les Jeux olympiques des livres jaunes. Jusqu'à présent, l'événement similaire populaire parmi les écoles coraniques et Moussabakor Tilawatil Kutub sous l'égide du ministère des Affaires religieuses. La dernière info vient de Pematang Siantar, Sumatra Nord. Le gouvernement Pematang Siantar révoque l'état des événements extraordinaires, KLB, diphtérie, par le décret du Bureau de la Santé locale en date du 5 mars
2018. Le directeur du bureau de la santé, Ronald Saraghi, mercredi, a expliqué que la révocation de l'état des événements extraordinaires est, après la période d'incubation plus longue des conclusions de cas diphtérie et une période de transmission de 4 semaines a passé et aucun nouveau cas de diphtérie ne sont pas trouvés. Au début de février 2018, on a trouvé un résident local suspect de diphtérie, de sorte que le Bureau de la Santé a déclaré l'état des événements extraordinaires de diphtérie. L'équipe de lutte contre l'épidémie diphtérique met alors en œuvre l'immunisation réponse aux épidémies dans des zones inattendues sur la diphtérie cible chez les enfants âgés d'un à 18 ans. Mais les résultats des essais cliniques de 8 échantillons de foyers de cas de diphtérie déclarent tous les échantillons négatifs Corinae bacterium diphtérie. Le maire de Pematang Siantar, Hefrian Shah, remercie l'ensemble des responsables de la communauté et du gouvernement de la ville, en particulier dans les rangs des services de santé, des districts et des villages sur la révocation de ce statut. Néanmoins, les gens sont toujours encouragés à maintenir la santé par l'exercice, manger des aliments sains, garder l'environnement propre et prendre immédiatement la famille au personnel médical si elle est malade. Cher ami, c'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 10 mars. Le 10 mars 1945, la ville de Tokyo a été bombardée à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Environ 300 bombardiers américains ont largué près de 2000 tonnes de bombes au-dessus de Tokyo, détruisant une grande partie de la capitale japonaise et tuant 100 000 civils. L'objectif américain d'imposer des tactiques de bombardement contre le Japon est de faire tomber le moral de la nation et de l'obliger à se rendre aux Alliés. À la suite de l'attentat à la bombe, 10 000 carrés de l'est de Tokyo ont été complètement détruits et 250 000 bâtiments ont été détruits. 9 jours plus tard, les troupes américaines ont bombardé les villes de Nagoya, Osaka et Kobe. En outre, les États-Unis ont bombardé Hiroshima et Nagasaki, ce qui a poussé le Japon à s'incliner devant les Alliés. Le 10 mars 1950, la politique monétaire de Sizo Shafruddin est entrée en vigueur en Indonésie. Sizo Shafruddin est une politique monétaire établie par Shafruddin Prawiranegara, ministre des Finances dans le cabinet Hatta II. Selon la politique, l'argent rouge ou l'argent de Nika est l'argent de Javache Bank de la dénomination de 5 rupiah et plus sont réduits de moitié. La découpe à gauche reste valable comme instrument de paiement valide d'une valeur égale à la moitié de la valeur d'origine jusqu'au 9 août à 18h temps de l'Indonésie occidentale. Du 22 mars au 16 avril, la gauche devrait être échangée contre de nouveaux billets aux banques et aux places désignées. Après cette date, le côte gauche est top solide. La bonne découpe est déclarée nulle et non avenue, mais elle peut être échangée contre une obligation d'État de la moitié de la valeur d'origine et sera payée 40 ans plus tard à un taux d'intérêt de 3% par an. Les ciseaux Shafruddin s'appliquent également aux dépôts bancaires. Les coupures de 2,50 roupias n'ont pas, eux, de coupure, de même que l'argent ouan de la République d'Indonésie, ORI. Cette politique a été faite pour surmonter la situation économique actuelle de l'Indonésie qui diminuait. Avec la sagesse controversée, Shafruddin entend une fois à la prise de plusieurs cibles, à savoir le remplacement de la monnaie qui sont multiples avec la nouvelle monnaie, ce qui réduit la masse monétaire pour juguler l'inflation et abaisser ainsi le prix des marchandises et remplir les coffres du gouvernement avec des prêts requis d'un montant de 1,5 milliard roupias. Le 10 mars 1977, le satellite Palapa A2 de l'Indonésie a été lancé depuis le Centre spatial Kennedy aux États-Unis. Palapa A2 est un satellite de communication d'Indonésie détenu et exploité par Télécommunication Société Anonyme Perumtel. Palapa A2 a été lancé avec la fusée Delta 291. 4 et s'opère dans orbite 77 longitude S depuis le 11 mars 1977. Le programme de satellite Palapa A est commencé lorsque le gouvernement indonésien fournit deux contrats distincts à Boeing Satellite System des États-Unis de fournir une station de commande principale pour les deux satellites Palapa A1 et A2 et 9 stations terriennes. La construction de 10 stations est terminée pendant 17 mois, l'un des plus rapides pour Boeing. Dans un contrat séparé, on a construit un total de 30 autres stations terriennes à être exploitées par Perumtel. Le nom Palapa a été choisi par le président Suharto en juillet 1975. Le satellite Palapa A2 est conçu comme une sauvegarde et est prêt à fonctionner lorsque le Palapa A1 échoue ou si la demande du marché ne peut plus être hébergée par Palapa A1. Chers amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre, le Parlement de l'Indonésie visite la Grèce pour la coopération économique. La délégation du Parlement de la République d'Indonésie a visité le Parlement grec. La visite a été faite pour répondre à l'invitation du Parlement grec. Lors d'une réunion avec les législateurs grecs, l'Indonésie et la Grèce ont exploré la coopération du côté économique à l'industrie du transport maritime. La visite de la délégation de la Chambre des représentants au Parlement grec a été dirigée par le vice-président du Parlement, Taufik Kurniawan, ensemble avec un certain nombre de membres du conseil des différentes commissions et factions. Une délégation parlementaire a été reçue directement par le vice-président du Parlement grec, Anastasia Christodoulopoulou ainsi que plusieurs autres membres du Parlement grec à Athènes mercredi 7 mars. Accompagnant la délégation de la Chambre des représentants, l'ambassadeur indonésien en Grèce, Ferry Adamhar. Dans sa déclaration, Taufik Kurniawan a déclaré que les relations commerciales entre l'Indonésie et la Grèce pourraient encore augmenter grâce à la coopération des canaux de distribution nationaux. L'Indonésie peut être la porte d'entrée du marché des produits grecs vers l'ASEAN et la Grèce devient la porte d'entrée du marché des produits indonésiens vers l'Europe Sud. Cette opportunité est en ligne avec l'amélioration des conditions de l'économie grecque. Cependant, la délégation a également examiné dans quelle mesure la capacité de l'économie grecque à survivre au milieu de la situation économique mondiale dynamique. Taufik a déclaré que le Parlement de l'Indonésie voulait savoir et apprendre comment l'État grec survit afin que l'Indonésie puisse éviter des choses similaires. Taufik a promis de réaliser les résultats de cette diplomatie parlementaire en Indonésie. Taufik a noté, du point de vue économique, les tendances commerciales entre l'Indonésie et la Grèce au cours des 6 dernières années ont augmenté. En 2017, les échanges commerciaux ont augmenté de 210 millions à 280 millions de dollars américains. Actuellement, l'Indonésie exporte de l'huile de palme, du papier, des chaussures, du tabac, du café et d'autres produits en Grèce, alors que la Grèce exporte des produits de coton, de l'encre, des verres, des kiwis et divers autres produits en Indonésie. Le président du Parlement de l'économie et des finances, Taufik Kurniawan, veille à ce que la coopération mutuelle entre l'Indonésie et la Grèce soit également renforcée. Ceci est marqué par le soutien de la Grèce à l'Indonésie pour devenir un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU 2019-2020 et plusieurs autres organisations internationales. Au contraire, l'Indonésie soutiendra également la Grèce à devenir membre du Conseil de sécurité non permanent de l'ONU en 2025-2026. À la fin de la réunion, Taufik a déclaré qu'il apprécie bien la visite réciproque du Parlement grec en Indonésie, étant donné que les relations entre les parlements des deux pays doivent être sauvegardées et renforcées. En outre, le Parlement de l'Indonésie souhaite qu'il y ait de l'air frais pour la coopération de l'éducation, du commerce, de l'infrastructure et des industries créatives des deux pays. Chers amis, c'était Mon Indonésie.
L'Indonésie montre à nouveau son engagement à réaliser la paix dans le monde. L'un d'entre eux sera l'hôte de la conférence trilatérale sur les ulémas, qui sera suivie par l'Indonésie, l'Afghanistan et le Pakistan dans un proche avenir. La conférence des ulémas de trois pays vise à mener le processus à paix de pays en Afghanistan. Mardi 6 mars, à Jakarta, le vice-président Yusuf Kalla, le ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi et le conseil indonésien des ulémas ont tenu une réunion à huis clos sur le plan de la conférence trilatérale des ulémas. Rencontré avec la réunion, le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que le rôle des ulémas est très important pour soutenir la réalisation de la paix en Afghanistan. La réunion en Indonésie deviendra plus tard un parapluie juridique avant la convocation d'une réunion qui part d'un pays plus technique. Nous espérons que la réunion produise une convention collective comment réconcilier l'Afghanistan. C'est très important car en Afghanistan et aussi en Indonésie, la voix des érudits est très importante. Youssouf Kalla a ajouté, la mise en œuvre de la conférence trilatérale des ulémas est une implémentation des résultats de la réunion Kabul Peace Process Conference à la fin de février dernier, dont l'Afghanistan a souhaité que l'Indonésie participe dans les efforts d'atteindre la paix. L'Agence de l'économie créative s'efforce à continuer à stimuler le marché des jeux et les applications numériques produites par les enfants de la nation qui continuent de croître et d'améliorer sa qualité. L'effort est basé sur le fait que l'Indonésie est l'un des pays avec un énorme potentiel de marché des jeux et des applications numériques. Mais le grand potentiel n'est toujours pas maximisé. Comme affirmé le directeur de l'infrastructure de l'Agence de l'économie créative, Mohamed Nel El Himam, mardi 6 mars aux équipes de médias, la part de marché des jeux et des applications digitales des développeurs locaux dans le pays reste très faible par rapport aux jeux et l'application digitaux réalisés à l'étranger.
Perkembangannya mudah, kalau kami rasa sih positif ya, makin baik, makin bagus.
Le développement positif devient le mieux parce que le marché des jeux en Indonésie est grand, assez grand, mais le marché de l'Indonésie de développeurs locaux de jeux est encore très petit, même hier étant abaissé. Ou bien, nous espérons avec l'assistance de l'Agence de l'économie créative, avec la coopération avec AGI, y compris dans des choses comme celle-ci, nous pouvons monter la part de marché. On a dit que le marché de Nuzu ou Nuzu.com l'année dernière était 800 millions de dollars américains en Indonésie. Mohamed Nel El Himam a ajouté, jusqu'à présent, l'Agence de l'économie créative s'efforce d'augmenter la compétitivité des jeux et des applications digitales offrant des enfants de la nation. Ces efforts sont réalisés dans un nombre de programmes, entre autres Bcraft Developer Day, Bcraft Game Prime, et envoyé une délégation de développeurs de jeux et d'applications indonésiennes à Game Connection 2018 à San Francisco, aux États-Unis de 19 au 21 mars prochain. La coopération commerciale entre l'Indonésie et le Pakistan continuera de croître et bénéficiera les deux pays. Les deux pays continuent à former une commission conjointe pour intensifier les coopérations qui renforcent Islamabad et Jakarta. Cela a été révélé par l'ambassade du Pakistan en Indonésie, Mohamed Akil Nadim, à la voix de l'Indonésie de RRI à l'ambassade du Pakistan à Jakarta jeudi soir. Nous espérons également que cette année, une commission conjointe entre le Pakistan et l'Indonésie deviendra une évaluation. La ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie pourrait se rendre au Pakistan pour inaugurer une commission. Nous verrions l'engagement bilatéral plus fort entre le Pakistan et l'Indonésie et il deviendra partenaire commercial. Nous développons la coopération économique, nous développons le commerce entre les deux pays. Mohamed Akil Nadim a expliqué que plus tard, en 2019, le Premier ministre du Pakistan se rendrait en Indonésie pour resserrer la coopération entre les deux pays dans divers domaines, tels que la politique, l'économie, la culture et le commerce. Le gouvernement indonésien souhaite que les pays partenaires commerciaux, en particulier les États-Unis, mènent des échanges libres et équitables. Cette déclaration est liée à la décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits d'importation élevés sur les produits en acier et en aluminium. Le ministre du Commerce, Enggar Tiasto Lukita, a déclaré vendredi que la décision de Trump n'avait pas d'impact direct sur l'Indonésie, parce que les exportations indonésiennes d'acier et d'aluminium vers les États-Unis sont faibles. Mais l'Indonésie demande à tous les pays de mener un commerce libre et équitable. Selon Enggar Tiasto, la guerre commerciale ne dérangera qu'elle ne laissera que le président Donald Trump a déclaré qu'il imposerait un droit de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur les produits en aluminium. La décision a été prise pour protéger les produits domestiques aux États-Unis. La décision de Trump a été répondue mauvais par le principal conseil économique de Trump depuis le début de l'administration. Gary Cohn a démissionné de son poste après que Trump a décidé d'imposer des tarifs sur les importations d'acier et d'aluminium. Le dernier, la Direction générale de l'aviation civile du ministère des Transports a annoncé le présent de l'aéroport de Kertajärvi-Majalinka, Jaffa West. Le nouvel aéroport en Indonésie sera en mesure d'atterrir des avions du monde entier. Le directeur général de l'aviation civile au ministère des Transports, Agus Santoso, a déclaré vendredi à Jakarta que sur la base du projet initial, l'aéroport de Kertajati servirait comme lieu d'embarquement pour le pèlerinage de Jaffa West en juillet 2018. Le départ des pèlerins du Hajj de Jaffa West est toujours entièrement pris en charge par l'aéroport international de Soekarno Hatta à Cengkareng, Banten. Selon Agus Santoso, l'état de préparation du service aérien atteint 100%, y compris la piste, l'atterrissage du parking de l'avion, la tour de surveillance jusqu'à la gare Bharata. L'inauguration initiale de l'aéroport de Kertajati sera faite le 1er mai et l'inauguration principale en juin.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Ce sont toujours des effets frais qu'on vous propose à la voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Demak. Alors restez avec nous au RRI World Service Voice of Indonesia. En pour les ondes courtes, vous pouvez également écouter notre émission via www.voinews.id. Demak est une région située sur la côte nord de la province de Java centrale. Concernant le secteur touristique, cette région est connue pour la destination touristique religieuse. Beaucoup de touristes qui visitent Demak pour pèlerinage à la tombe de Sunan Kalijaga ou Raden Patah ont même visité la grande mosquée de Demak. En plus du tourisme religieux, Demak a effectivement une variété de destinations touristiques naturelles intéressantes à visiter. L'un d'entre eux est écotourisme de Rumah Edukasi Silvofisri Reduction. En plus de profiter de la beauté de la nature, vous trouverez ici des informations sur l'arbre mangrove. Écotourisme de la maison l'éducation Silvofisri Réduction, située dans le village de Kedung Muti, sous-district de Wadung, la résidence de Demak. L'emplacement de cette forêt de mangrove est situé juste entre la frontière entre les sous-districts de Wadung, Demak et Kedung, Jepara. Sa distance du centre-ville de Demak environ 35 km. Si vous venez de la ville de Jepara, la distance est environ 30 km. Pour entrer dans cet objet touristique, vous devez seulement payer 2000 rupiah par personne. Il est ouvert de 8h à 17h. Écotourisme Rumah Edukasi Silvofisri Reduction est une zone touristique de la forêt mangrove. Cette mini-forêt de mangrove dans des mi-hectares est également un lieu d'éducation à la mangrove et d'atténuation des catastrophes. Cet écotourisme est géré par alerte de désastre basée sur la communauté ou SIBAT du village local. La forêt de mangrove a été créée à partir du programme AMCRO 2016 jusqu'en 2017 en plantant 25 000 arbres de mangrove. Dans cette forêt, il y a 100 types de mangrove plantés, à savoir mangrove longue, mangrove courte, mangrove courte rouge, mangrove de feu et mangrove Rhizophora apiculata. Après la plantation, la communauté locale l'a ensuite développée dans l'éducation à l'écotourisme sur la mangrove et l'atténuation des catastrophes. La forêt de mangrove est alors faite de pistes et d'autres moyens tels que le belvédère, le lieu de selfie, l'apprentissage, la pépinière et la plantation de mangrove. En outre, il y a des cafés qui servent de lieu d'apprentissage pour les visiteurs. Allez à l'écotourisme Rumah Edukasi Silver Fishery. Vous pouvez voir le paysage vert de la forêt de mangrove. Vous pouvez profiter de la beauté de la forêt de mangrove en marchant sur la track. Au milieu de la piste, ou sous forme d'un pont de bambou et bois, il y a un gazebo en déchets de bois et bambou. Sur le côté de la forêt de mangrove, directement à côté de la rivière ou l'Andrenes ou SWD, il y a le spot photo intéressant. Vous pouvez prendre des photos et voir le bateau de pêche qui passe. Pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur le mangrove, vous pouvez suivre le programme éducatif. En payant à nouveau à 15 000 roupias par personne, vous apprendrez à connaître la mangrove, le pépinière, la plantation et l'atténuation des catastrophes. C'est Judith Lutis, c'était le magazine culturel intitulé Écotourisme, Rumah Edukasi Silver Fishery. Merci à tous.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant une danse traditionnelle moluquoise, Orlapei. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Molukke, l'une des plus anciennes provinces de l'histoire indonésienne, est située dans l'est de l'Indonésie. Molukke est connue pour ses 1000 îles et possède une riche diversité de ressources sociales et culturelles. Chaque région en Indonésie, de Sabang à Merauke, a différentes cultures allant de la danse aux cérémonies traditionnelles. Ils ont tous des caractéristiques uniques très intéressantes à connaître. Ce soir, nous allons discuter de la danse traditionnelle Orlapei, originaire de la région de Molukke. Cette danse est une danse de réception des invités d'honneur aux événements de pays ou village à Molukke. La danse décrit généralement la bonne humeur de toute la communauté envers l'arrivée de l'invité d'honneur dans son village et une expression bienvenue. La combinaison des motifs de sol et le mouvement et le rythme de la musique renforce l'expression de la façon dont toute la communauté locale se sent très heureuse de la présence des invités d'honneur dans leur village. Cette danse utilise la propriété gaba-gaba, la branche du sagu comme nourriture typique des habitants de Molukke et dans le dialecte de Molukke est appelé jaga sagu, accompagné dans Skumang de musique traditionnelle molukwas, à savoir tifa, flûte de bambou, ukulélé et guitare. La danse est si harmonieuse, énergique et dynamique, rayonnant l'aura de l'amitié, de la paix et de la convivialité gotong royong. Donc, voir cette danse regarde aussi leurs âmes sincères. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
Passons maintenant au divertissement avec le magazine musical indonésienne qui va vous plaire.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Chers auditeurs d'ITIS, on écoute maintenant la rubrique magazine musical. Ce soir, nous vous présentons la musique Kroncong. Donc, écoutons une chanson de Tuti Trisedia dans le titre Tanah Airku ou Ma Patrie. Bonne écoute.
Thank you.
auditeurs du TIS, c'était la 541 chantée par Tutis Tricedia de Toletana Airco ou Ma Patrie. Cette chanson raconte de la beauté de la nature de l'Indonésie. L'Indonésie est un pays archipel qui s'étend à tout au long de l'équateur, de hautes montagnes, de vallées escarpées, de rivières sinueuses menant à la mer Bleue, des forêts verdoyantes et de riz balance. C'est la richesse de l'Indonésie lorsqu'il est devenu la fierté de sa communauté. La carrière de Tutis Tricedia dans la musique, en particulier Kroncong, a commencé quand elle a obtenu le premier champion de l'idole de la radio et de la télévision au BRTV en 1986 pour le Zandre Kroncong. Auparavant, elle a remporté la champion de la course de Kroncong en Tarkotama au commandement principal, l'armée nationale indonésienne à Jakarta en 1983. Bien, ses amis, écoutons une chanson de Kroncong intitulée Taman Laut ou le parc marin, chantée par Novita Indri. Bonne écoute. Thank you. Ceci dit auditis, c'était une chanson Tamalaut chantée par Novita Indri. Cette chanson parle d'un côté de la beauté et de la richesse naturelle de l'Indonésie. En tant que pays archipelagique, l'Indonésie a un vaste océan. Non seulement d'être une source de vie, le paysage sous-marin de l'Indonésie est également très impressionnant. De nombreux touristes viennent du monde entier pour profiter de la beauté de la nature sous-marine de l'Indonésie dispersée dans l'archipel. Une variété de beaux récifs coralliens et divers types de poissons colorés deviennent un paysage qui est incroyable. Voilà la beauté et la richesse du célèbre archipel de sa diversité. Bon, chers auditeurs, pour terminer notre raconte d'aujourd'hui, écoutons deux chansons de Kronton dont les titres sont Bandar Jakarta, chanté par Toto Salmon, et Bandung Selatan di waktu malam, ou Bandung du Sud pendant la nuit, chanté par Gina Sadeli. Bonne écoute et à demain! Il y en a des différents tous les jours, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. A bientôt et au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.